Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Nombreux sont les défis auxquels le fleuve Niger est confronté aujourd'hui et des mesures sont annoncées de part et d'autre pour y faire face. Alors, une seule question, comment sauver le fleuve Niger? C'est le thème du Grand Dialogue qui nous réunit aujourd'hui et nos invités sont Dr Baba Faradji Ndiaye de l'agence du bassin du fleuve Niger ABFN, Jassako du collectif Sauvons le fleuve Niger et au téléphone Moussa Konaté de Seco ONG. Je suis Mohamed Touré, chers invités, chers auditeurs et téléspectateurs et les internautes qui nous suivent sur Facebook, bienvenue à cette émission.
Le Grand Dialogue.
Alors, la première question à vous, docteur Baba Faradji Ndiaye. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui ne va pas avec le fleuve Niger?
Merci, monsieur Touré. C'est une question simple comme ça, mais derrière, il y a effectivement beaucoup de choses.
Ouais.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, rien ne va, en fait, quand on regarde au niveau du fleuve Niger. Bien sûr, il y a beaucoup de pressions. Il y a beaucoup de pressions qui sont d'ordre naturel. Hein. Voilà, on est dans un contexte de changement climatique. Donc, on ne va pas trop s'étaler sur ça. Bien sûr, il pleut moins, les températures augmentent. Tout ça a beaucoup d'impact. Diminue en fait la ressource au niveau de nos cours d'eau. Mais là où, moi personnellement, j'insiste, c'est au niveau des pressions anthropiques. Donc, nous, nos actions. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons entrepris depuis quelques années beaucoup d'actions qui nuisent en fait à nos cours d'eau de façon générale. Quand on regarde nos activités industrielles par exemple, voilà, ont beaucoup d'impact du fait que il y a des rejets d'eaux usées, les eaux usées, tout ce qui est rejeté par nos industries, aussi bien les industries que les unités artisanales comme la tannerie, comme la teinturerie, ces eaux usées vont dans le fleuve. Très peu, un faible pourcentage arrive à être traité. Sinon, tout le reste est rejeté dans le fleuve. Et quand on regarde aussi l'agriculture, nous sommes un pays agricole. Voilà, donc avec l'utilisation de beaucoup d'engrais chimiques et autres, là, des pesticides qui sont drainés par ruissellement dans le fleuve. Nous avons des activités minières notamment, non seulement sur le versant, mais malheureusement dans le lit même du fleuve, de nos cours d'eau, que ce soit le fleuve Niger ou le fleuve Sénégal, des machines qu'on installe dans le lit, des bâtiments entiers et avec une forte exploitation d'or, qui, avec utilisation de produits chimiques comme le mercure, comme le cyanure, et tous ces résidus sont directement reversés dans le fleuve. Notre problème, effectivement, c'est aussi l'occupation de nos cours d'eau, les berges, mais aussi le lit. Vous voyez les constructions qu'on fait justement au niveau de ces lits. Donc vraiment, il y a tellement de problèmes aujourd'hui, de problèmes de pollution, si je dois me résumer, de problèmes d'occupation des berges et du lit, de problèmes de dégradation. Bien sûr, tout ça ajouté à des problèmes qui sont d'ordre naturel, rien ne va. Et le drame, c'est que quand on regarde les cours d'eau à travers le monde, c'est des problèmes. Tous les cours d'eau sont exposés à des problèmes. Mais que tous ces problèmes-là se retrouvent au niveau d'un seul cours d'eau, que ce soit le fleuve Niger ou le fleuve Sénégal, ça, c'est la spécificité de nos cours d'eau. Tous ces problèmes, ensablement, occupation, pollution, et aridification du versant, tous ces problèmes se sont retrouvés. Donc, vous voyez que c'est très compliqué. Voilà. Ouais. Donc, c'est à ces problèmes-là que font face justement nos cours.
D'accord, rien ne va. Alors, est-ce que le fleuve est menacé de disparition?
Le fleuve est menacé de disparition, bien évidemment. Quand on a un patrimoine dont on ne prend pas soin ou qu'on ne planifie pas de prendre soin. Et ça, quand je dis, je ne jette pas de pierre ni à Jacques ni à Paul, mais je jette la pierre et à Jacques et à Paul, donc c'est-à-dire les gouvernants et les citoyens. Il est inadmissible aujourd'hui que dans tous nos quartiers, là où il y a ravin, les ravins se sont transformés en déchets d'ordures. Ce sont des déchets organiques, donc des déchets aussi plastiques, des déchets domestiques, ce qu'on va appeler les déchets domestiques. Il est clair que l'activité humaine est un facteur menaçant quant à la bonne santé de ce fleuve. Nous le savons tous aujourd'hui que ce fleuve n'est pas en bonne santé. Eh bien, un corps humain, c'est souvent la métaphore que je fais, quand le corps humain ne se sent pas bien quelque part, il est menacé de disparition. Donc c'est le cas pour le fleuve. Il est clair, oui, que je vais parler sous le contrôle de M. Ndiaye, il est évident que si on ne prend pas soin de ce patrimoine qui le long, c'est-à-dire du versant Guinée à l'aval Nigeria, si on n'y prend pas soin, les 1485 km en tout cas de ce grand fleuve, de ce grand patrimoine, fait d'histoire, hein, d'histoire humaine. Et donc, si on n'en prend pas soin, oui, ça va disparaître.
D'accord. Moussa Konaté, est-ce que vous partagez les avis de Dr Ndiaye et de Dia Sako?
Bonjour, tout à fait. Je crois que mes deux collègues ont planté les décors comme il faut, franchement. Et en tant que société civile, travaillant sur la question, nous avons la même perception que si on ne prend pas garde, nous allons perdre ce fleuve vital pour le Mali. Et madame l'a évoqué, c'est au niveau des décideurs politiques, techniques, mais aussi c'est au niveau de la population qu'il convient de travailler. Tous ces mots qui viennent de citer sont connus, ont été analysés. Et il existe des mesures législatives pour les corriger, pour les prévenir. Mais j'avoue que c'est là où il faut faire un travail consistant en termes de plaidoyer pour que les textes qui régissent la gestion du fleuve, tant au niveau national que au niveau régional, puissent être appliqués. De l'autre côté, je pense que quand on parle de l'action humaine, là, c'est le comportement humain qui est en question. Le changement de comportement est un travail de longue haleine, à mon avis. Et là, je pense que nous, ONG et les associations, ont un défi à relever. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'appliquer les textes, il faut que nous sachions pourquoi nous les appliquons. Je pense que c'est un peu les deux grands défis qu'il convient de relever aujourd'hui pour faire de ce fleuve lui donner le rôle qui lui revient dans la vie de nos communautés.
Alors, on va y aller étape par étape. La non-application des textes, elle relève des autorités, n'est-ce pas?
Oui. Et je vous dis, en les analysant, je ne suis pas un grand spécialiste, mais ma connaissance de ces dossiers montre que tant au niveau de la sous-région, de la région et au niveau national, des textes existent bel et bien. C'est clair et net.
D'accord, docteur Baba Fahim.
Le travail, c'est que le contenu des textes n'est pas connu de tout le monde. Bien que dans le cadre de la CHIR et autres initiatives, un travail de sensibilisation se fait, je pense qu'il faut redoubler d'efforts à ce niveau-là.
D'accord, justement, Monsieur Konaté, concernant les textes, on va demander à Monsieur Docteur Baba Faradji Ndiaye de nous dire que disent les textes du Mali par rapport à la protection du fleuve Niger.
Ah, ok. Juste pour revenir un peu, en fait, renforcer, voilà, le fleuve peut disparaître. Tel que dans l'esprit du simple malien, quand on dit disparaître, peut-être que le fleuve on ne pourra plus le voir. Peut-être que certains affluents vont être comblés. Le lit même peut être carrément comblé. Ça, c'est des éventualités. Mais l'autre aspect, c'est que le fleuve peut disparaître en étant là dès l'instant qu'on ne pourra plus utiliser l'eau.
Que l'eau polluée.
L'eau polluée qu'on ne peut plus utiliser. Il n'y a pas très longtemps au Ghana, il y a un cours d'eau, l'Ankobra, qui a été pollué au point que la société qui est chargée de traiter l'homologue de la Somajap, c'est nous, de traiter l'eau pour rendre potable et distribuer, n'a pas pu traiter ces eaux-là. Et il a fallu 200 milliards de francs CFA que le gouvernement ghanéen a débloqué pour enclencher un processus de dépollution de ce cours d'eau. Voilà. Donc, c'est quand on dit disparaître, c'est aussi ça. Ça peut être là, mais on peut pas. Les animaux ne peuvent pas boire, on ne peut pas transformer. Donc, ça ne servira absolument à rien. Donc, il faut aussi garder ça en tête. Maintenant, pour les textes, vous savez, comme on dit effectivement, souvent on entend, hein, le Mali a les meilleurs textes. Voilà, donc ça on entend. Effectivement, il y a beaucoup de textes à l'heure actuelle qui, si on les applique, qui interdisent par exemple le déversement. Il y a une loi 01020 qui encadre vraiment tout ce qui est pollution de nos cours d'eau. Il y a des lois, même le code de l'eau aussi, qui parle de tout ça. Il y a tellement de textes au niveau national qui, si on les applique, on ne va pas construire dans le lit. Le code domanial foncier est clair sur ça. Il faut 25 mètres de part et d'autre des deux rives. Et ces 25 mètres-là sont arrêtés au moment de la crue. Donc, quand le fleuve est bien rempli, on compte 25 mètres de part et d'autre. Ça, c'est les zones justement réservées où on ne doit rien faire.
Et pourtant, on voit des tonnes de maisons, des hôtels qui sont construits
dans
le lit.
On ne peut pas comprendre.
Voilà. Et
qui ont des titres fonciers.
Justement.
Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Kabbalah pour le parquet, des gens nous ont appelés. Ça, c'est quelque chose aussi à saluer. On reçoit beaucoup de coups de fil de la population pour nous dire qu'il y a tel comportement par-ci, par-là. Donc on regarde, Kabbalah, c'est une maison qui est dans le lit du fleuve. Ils sont en train de construire et ils ont un titre foncier. Donc on peut voir beaucoup de cas à Bamako et ailleurs. Bon, donc, mais les textes existent, ça c'est clair.
Pourquoi
non seulement il y a les textes, mais tout ce que vous pouvez imaginer comme convention sous-régionale, comme convention international. Le Mali a souscrit à tout ça.
Il paraît même que le Mali fait partie des premiers pays à ratifier.
Le plus souvent,
Pourquoi se presser à signer des textes
et
ou à adopter des textes s'ils ne vont pas être
justement
appliqués.
Et aujourd'hui, c'est ça le paradoxe. Qu'on prenne au niveau international, qu'on prenne au niveau du bassin même, quand on prend le fleuve Niger, la charte de l'eau qui engage tous les pays à protéger, à ne pas faire les comportements qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Le Mali a souscrit à tout ça. Et pourtant, effectivement, il y a un problème. Parce que ces textes-là ne sont pas appliqués. Bon, même si, peut-être qu'on va y arriver.
On va y arriver.
Voilà,
comprenez-vous que le Mali adopte, l'État malien adopte, s'engage à travers des textes et que ces textes soient difficiles ou non applicables?
Le Mali est souvent bon élève en ce qui concerne les ratifications. Mais après, il y a le geste de signature et l'application elle-même. On a du mal.
Est-ce parce que c'est difficile à appliquer ou est-ce
ce n'est pas difficile.
Qu'est-ce qui bloque selon vous?
Alors, je vous retourne votre question. Est-ce qu'une...
Non, c'est moi qui pose la question.
Alors, à mon avis, en tant que citoyenne et m'écoutant mon cœur, non, aucun texte n'est difficile à appliquer. Donc, à ce niveau, il faut situer les niveaux de responsabilité. Donc, quand un texte est à appliquer, qui applique ce texte? La chaîne de responsabilité. Quand la chaîne de responsabilité est maîtrisée dans un processus, il n'y a aucun problème qu'à Kabbalah, on ne puisse pas, je vais utiliser un terme pas très joli, dégager cette maison. S'il faut enlever cette maison de là, titre foncier ou pas titre foncier, qui a donné ce titre foncier-là? La chaîne de responsabilité est là. Qui a dit à cette personne de construire dans le lit? La chaîne de responsabilité est là. Ce n'est pas fait dans les normes. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève la maison. C'est aussi simple que ça. C'est mon point de vue. Après, peut-être qu'il y a d'autres paramètres qu'on ne maîtrise pas, que seul, justement, le fonctionnaire en charge de la question peut répondre. Mais je pense que dans l'application des règles, il faut situer une chaîne de responsabilité. Et une fois qu'on a situé la chaîne de responsabilité, que chacun joue sa partition. Si chacun joue sa partition, on est bon dans le meilleur des mondes possible.
Moussa Konaté va réagir et je vous donne juste la parole. Moussa Konaté, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que l'État est le premier responsable parce que c'est lui qui devrait montrer l'exemple à travers notamment l'application des textes?
Je partage tout à fait cet avis parce que à un moment donné, l'information, la sensibilisation, le changement de comportement a des limites. Il y a des limites. Quand le voisin qui continue à polluer malgré la loi, n'est pas puni, son voisin va l'imiter. Le voisin de ce voisin va l'imiter, etc., etc. Donc, nous, bon, c'est vrai, on parle de beau sensibiliser, etc., mais à un moment donné, il faut sanctionner. Comme madame l'a dit, en nous remontant la chaîne de responsabilité et de responsabilité, qu'il faut sanctionner, il faut le faire. Et il faut le faire jusqu'au bout. Pas entamer des sanctions pour pouvoir les arrêter. Parce que aucun pays ne peut aller de l'avant en appliquant des lois si on ne fait pas mal à un citoyen qui viole cette loi.
Alors, Monsieur Konaté, sanctionner, mais également proposer des solutions. Je donne un exemple. Par exemple, ceux qui font de la teinturerie, est-ce qu'on leur a montré un endroit ou une zone où est-ce qu'elles peuvent, ces personnes-là peuvent déverser la teinture?
Et je connais pas de certains cas où des ONG ont mobilisé des financements pour créer des bassins de décantation, par exemple. Juste derrière Bel Sogonigo, il y a un cas de ce genre-là. Et à mon avis, c'est des cas qu'il faut multiplier. Et il faut échanger les expériences des uns et des autres par rapport à cela. Et en restant vigilant, je suis certain que même les promoteurs de teinture et autres vont trouver des solutions à la matière. Mais à un moment donné, on arrête le processus d'accompagnement de cette filière. Et puis voilà, et puis les gens retombent dans les facilités qui constituent à déverser dans les canaux. Il y a des exemples qui existent en la matière.
Docteur Ndiaye, est-ce que ce n'est pas le rôle également de l'ABFN de faire le suivi de l'application de ces textes?
Il y a beaucoup de structures qui sont engagées voilà, dans ça. Et juste par rapport aux teintureurs, effectivement, il y a eu des initiatives. Il y a à Djanengela, par exemple, les teintureurs, à un moment donné, ont été regroupés justement pour pouvoir justement bien récupérer les eaux usées et pouvoir les traiter. Bon, c'est vrai que c'était une expérience qui n'a pas bien marché, mais il faut aller dans ce sens-là. Multiplier les points de regroupement, faire des fosses septiques vraiment pour déverser les eaux usées qui sont vraiment très chargées en polluants, pouvoir les récupérer et les traiter avant d'arriver dans le fleuve. Maintenant, par rapport au texte, la question, déjà, est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Je vais juste vous dire un cas. Il y a eu un texte, un dernier né de texte, parce que ça, on crée toujours. Ça, c'est un arrêté interministériel pour suspendre le dragage dans le lit du fleuve Niger. Mmh. Ça a été signé le 15 mai. Pour une année, bien sûr, mais puisque le code minier aussi est dans le processus, on pense que d'ici une année, ça va carrément finir, ça va être adopté. Et dans ce code-là, l'interdiction est bien écrite. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a pris une année de suspension. Le 15 mai, mais déjà le 30 mai, au niveau de l'ABFN, nous étions sur le fleuve, accompagnés de la brigade fluviale, au niveau de l'hôtel Mandé, où il y avait une vingtaine de dragues, donc où on a procédé à leur destruction. À Baguineda aussi, le lendemain...
Excusez-moi, est-ce que cet hôtel même n'est pas installé sur le lit du fleuve?
Bien sûr, ça c'est des photos qu'on a fait défiler vraiment un peu partout, parce qu'effectivement on le voit. Malheureusement, c'est ça. Donc à Baguineda, la même opération a continué le 31 et le 1er juin pour détruire une soixantaine de dragues. Voilà. Donc vous voyez... L'arrêté est sorti le 15 mai et déjà deux semaines après, l'application a commencé. Et après, c'est la gendarmerie qui est partie à Calaban pour détruire tout ce qu'il y avait comme drague. Et les jours qui ont suivi, vous avez certainement suivi l'intervention du Premier ministre. Voilà, et aussi... Donc, c'est pour dire que ce n'est pas compliqué. Quand on fait un texte, c'est pour l'appliquer. Maintenant, les services techniques appliquent et si ces services ont effectivement l'accompagnement des hautes autorités, ça encourage aussi. Voilà, ça encourage aussi. Et si on fait la même chose...
Mais n'est-ce pas paradoxal aujourd'hui, par exemple, il y a des textes qui existent depuis longtemps pour empêcher les gens de s'installer sur le lit du fleuve. Oui. Et qu'il y a un arrêté qui est adopté il y a 15 jours. Le 15 mai. Oui. Et le 30 mai déjà, il y a une brigade qui se lève pour aller dégarper les gens. Mais sauf qu'il y a un hôtel qui est installé depuis des années, mais on ne touche pas à cet hôtel.
Bon, ça c'est... Effectivement, c'est pour ça que je dis... Si par exemple, les textes ont le même, les structures dans l'application des textes ont le même accompagnement qu'on est en train d'observer par rapport au dragage, c'est sûr que ces bâtiments-là ne vont pas rester dans le lit, ou bien d'autres ne vont pas s'ériger dans le lit, continuer à s'ériger dans le lit. Donc il faut vraiment un accompagnement des hautes autorités au niveau des structures. Ça aussi, ça encourage, ça renforce. Et à ce moment, les structures techniques n'auront pas peur, effectivement. Mais le problème, c'est quoi? Surtout par rapport aux occupations illicites. Aujourd'hui, c'est des gens qu'on ne peut pas, on ne peut même pas les toucher.
Pourquoi?
Oui, parce que, vous savez comme moi.
Ils ont des bras longs.
Ils ont des bras longs et souvent, c'est aussi l'autorité même qui s'installe.
Ah.
Qui s'installe dans le lit, il faut aussi le dire. Okay. Quand on regarde Bamako, la cité est dans le lit du fleuve Niger, la cité ministérielle. Et dans le lit du fleuve Niger.
Alors là.
Bon, voilà. Est-ce penser qu'un service technique peut aller le faire sortir
quand,
de la
quand ceux qui pratiquent le dragage, qui se considèrent comme les pauvres, se voient déguerpir et que ceux qui construisent comme des hôtels, qui se voient comme des riches, ne le sont pas.
Alors, il y a. Il y a en fait déjà l'existant, c'est-à-dire l'existant avec les textes anciens. Je ne parle pas de la cité ministérielle, mais peut-être que cet hôtel qu'on vient de citer, quand cet hôtel s'installait, il n'y avait peut-être pas à l'époque d'interdiction à ce niveau-là, parce que l'hôtel Mandé existe depuis bien longtemps, depuis mes souvenirs d'enfance. Donc je pense que c'est quand même un hôtel qui est là depuis longtemps. Pour ce qui est de... ça fait partie aussi du prestige et aussi d'avoir pignon sur le fleuve dans tous les pays du monde. Mais en fait, les États érigent ou non, il y a un fleuve dont je me réfère souvent qui est la Seine en France, qui est l'équivalent à peu près pour le Mali. En tout cas, la Seine est à la France, c'est que le fleuve Niger est au Mali. Il y a eu des aménagements. Nous, aujourd'hui, c'est-à-dire on ne part pas de ce qui a déjà été fait. Ce qui a déjà été fait, est-ce qu'on peut rebrousser chemin? Si on peut rebrousser chemin par rapport à la sauvegarde du fleuve, pourquoi pas? Mais si on ne peut pas rebrousser chemin, dans ce cas-là, mettre des garde-fous qui permettent à d'autres personnes de ne pas jouer justement la règle du deux poids deux mesures. Donc, il y a, nous aujourd'hui, le vœu. Nous, notre vœu, c'est l'aménagement du fleuve Niger. Que tous les pays, en fait, prennent à bras le corps la question. Tous les pays concernés, il y a 5 pays directement concernés et 4 autres qui reçoivent un bras ou une petite réminiscence du fleuve Niger. Donc, en tout cas, les cinq premiers concernés puissent prendre leurs responsabilités par rapport à ce patrimoine-là. S'il faut aménager le long du fleuve, tout le long, je pense qu'on lève des fonds dans ce pays et en Afrique pour bien d'autres choses que pour le fleuve Niger. Si on prend l'initiative justement d'aménager le long du fleuve Niger, je pense que une agence comme la BFM n'aurait pas de problème à lever le fonds nécessaire pour cela. Il faut de la volonté politique, de l'accompagnement. Nous, de notre tintamarre, avant les élections, c'est justement pour cela qu'on avait accru justement le vacarme autour du fleuve Niger, en se disant il faut que la question du fleuve Niger soit intégrée dans pratiquement tous les programmes des potentiels candidats. Ce fut le cas pour la majeure partie des candidats. Et pour une fois, la question du fleuve était prise en compte. Et pour une fois... Pas pour une fois, parce qu'on sait que, par exemple, en haut de l'État malien, que M. Ibrahim Boubacar Keïta a des sensibilités à ce niveau-là, sa femme a des sensibilités à ce niveau-là. Donc ça aide le combat. Mais ça doit aller au bout de ça, c'est-à-dire planifier comment aménager et surtout comment proposer des solutions. Nous, les solutions que nous proposons, il y a des activités économiques.
On va y revenir tout de suite par rapport aux solutions. Alors, aujourd'hui, Monsieur Moussa Konaté, est-ce que vous pensez que les Maliens sont conscients de ce qu'ils sont en train de perdre, on va dire, à travers le fleuve Niger?
J'allais rebondir justement sur ce point. C'est vrai que dans les propos, on voit beaucoup plus la législation, l'État malien, etc., prendre des dispositions Ça, c'est des garde-fous. Mais de façon globale, il faut aborder la question du fleuve par une vision environnementale des citoyens maliens. J'ai l'impression que partout où la loi est violée, j'ai l'impression que la conscience environnementale du citoyen n'est pas suffisamment développée. Parce qu'on met en avant sa commodité plutôt que la question environnementale qui gère la durée de survie des populations. C'est vraiment cet aspect que je voudrais aborder. C'est vrai, l'État doit jouer son rôle. Il y a des propositions de solutions. Leur application se fera par le citoyen, mais ce citoyen doit avoir cette vision, cette conscience environnementale pour s'engager à perdre quelque chose, mais en faveur de l'environnement, donc en faveur de la préservation du fleuve.
Mais selon vous, pourquoi le citoyen aujourd'hui n'a pas cette vision, le citoyen lambda?
Oui.
Je dis, selon vous, pourquoi aujourd'hui le citoyen lambda n'a pas cette vision environnementale?
Oui. Et, que ce soit au niveau urbain ou au niveau des communautés aujourd'hui, vous vous rendez compte, malgré les effets des changements climatiques très patents, les gens continuent à évoluer comme si rien n'était. C'est-à-dire, tout simplement, les alternatives pour faire face à ce changement climatique sont très peu développées. Et les gens n'ont pas conscience qu'on peut faire autrement et réussir mieux et dans la durée plutôt que de maintenir ces pratiques qui ne sont pas durables. Ça, c'est un premier. En deuxième temps, nos communautés sont habituées à vivre avec la nature. Mais la démographie galopante, les effets de changement climatique conjugués font en sorte qu'on ne peut plus vivre de la nature. On ne peut plus vivre de la nature. Si on arrive à avoir ce déclic, je pense que c'est en ce moment qu'on sera dans le niveau de ce qu'on appelle une vie environnementale saine, où chaque comportement est quelque part mesuré dans le sens que je vais préserver mon environnement. Voilà un peu une vision que moi, je pense, qui peut accompagner la mise en place de tous ces dispositifs réglementaires pour vraiment protéger le fleuve.
D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État malien doit revoir sa communication également pour que le citoyen lambda puisse comprendre? Quand on voit les communications, généralement, on entend gaz à effet de serre, on entend changement climatique, on entend réchauffement climatique, dérèglement climatique, qui n'est même pas très bien compris selon certains par les spécialistes, a fortiori le citoyen lambda.
Oui, effectivement. Non, c'est une réalité. Aujourd'hui, on profite pour le dire, nous sommes par exemple dans la quinzaine de l'environnement, voilà, où c'est vrai, il y a beaucoup d'activités qui se mènent. C'est aussi le lieu effectivement de passer des messages, de faire comprendre certaines notions aux Maliens lambda, au niveau des écoles. Voilà. Donc tout ça c'est une réalité. Parce que...
Mais justement, je reviens là-dessus toujours concernant la communication. Même cette quinzaine de l'environnement, la plupart des activités sont faites en français. Est-ce que la majeure partie des Maliens comprennent la langue française?
Mais il y a beaucoup aussi d'activités dans les langues locales, des émissions radiophoniques. Moi, présentement, j'ai une coloc qui est quelque part au niveau d'une radio pour faire effectivement une émission en Bamanakan, par exemple. Voilà. Donc, c'est vrai, c'est des choses à améliorer. Il faut beaucoup plus de communication. C'est dans ce sens-là, par exemple, que nous avons sillonné toutes les communes qui sont dans le bassin. C'est à peu près 200, souvent regroupés, pour échanger des messages avec eux. Les problèmes au niveau local, quelles sont les solutions. Parce que c'est ça aussi. Il faut que le local s'approprie justement à cette question-là. C'est en cela que les initiatives au niveau des associations, des collectifs sont à saluer. Si aujourd'hui, les ménagères comme ça, chaque Malien comprend que en jetant par exemple le sachet, s'il finit de boire et s'il jette le sachet quelque part à Irmajo, à Lafiabougou, s'il se rend compte que ça va se retrouver dans le fleuve, peut-être qu'il va l'arrêter. Donc ça, c'est vraiment des choses, des comportements, parce que l'environnement aussi, c'est un comportement, en fait. Donc il faut vraiment qu'on arrive à le cultiver. Et, bon, l'autre chose, c'est que, c'est vrai, aujourd'hui, je ne sais pas si on est déjà aux solutions ou pas.
Quelles sont les solutions?
Voilà, c'est pour dire que déjà, au niveau, par exemple, de l'État, il y a quand même des débuts de solutions. Ça, il faut aussi le dire et les saluer. Le fait même de créer une agence, de dédier une agence, par exemple, pour la sauvegarde du fleuve Niger, qui est si important pour le Mali, ça, c'est une solution, avec, bien sûr, un budget, même si, après, et voilà, on parle toujours d'insuffisance.
Ça ne reste pas une structure comme les
voilà.
textes.
Non, non, qui fait quand même, qui arrive quand même à faire des activités. D'accord. J'ai tantôt parlé des activités de sensibilisation au niveau, justement, des usagers, mais aussi des activités d'aménagement des berges, au niveau de certaines localités qui, si on ne fait rien, vont disparaître. Et aussi avec des visions pour aller dans le sens de l'aménagement des berges à Bamako, par exemple. Voilà. Avec, bien sûr, d'autres structures. Comme vous le savez, c'est une question qui regroupe plusieurs structures. Donc, il y a, bien sûr, le ministère de l'Urbanisme, l'Environnement. Donc, il y a effectivement en vue ce grand programme d'aménagement des berges à Bamako, puisque vous êtes aussi conscient, vous êtes d'accord avec moi, qu'on ne peut pas laisser Bamako dans cette situation-là. Où aujourd'hui, on n'a pas de berge pour le fleuve Niger. Il n'y a pas de berge, il n'y a pas de servitude. Parce que les logements, on a construit. Donc même pour accéder au fleuve, il faut souvent passer par la maison d'autrui. Donc tel qu'il faut voir, il faut dégager d'autres servitudes pour le fleuve. Et l'aménagement peut effectivement faire ça. Et il y a un programme, un grand programme, justement, qui regroupe plusieurs ministères, justement, en cours.
D'accord. Vous avez des propositions de solutions aussi, Diasako?
Absolument. Mais avant la conscience citoyenne, j'aimerais revenir sur la conscience citoyenne et rebondir sur ce que M. Ndiaye disait tout à l'heure, qui était qu'un citoyen doit savoir qu'il ne doit pas jeter un plastique par terre. Mais la question que je me pose, que j'ai envie de poser à tous les citoyens maliens, est-ce que ça ne va pas de soi de se dire qu'il ne faut pas jeter le plastique qu'on vient d'utiliser? Est-ce que ça ne va pas de soi?
Généralement, des gens qui ont des déchets, qui sont en train de chercher des poubelles, et quand le citoyen te voit chercher une poubelle, on te demande, est-ce que tu viens de l'extérieur?
On te traite de tout bab. Non mais, comme on dit, l'assainissement, Djeya, Sigida, Lakana, ce n'est pas... Sigida Lakana, ça existe dans...
En français, protection de l'environnement.
Protection de l'environnement. Voilà. Protéger l'environnement. Protéger l'environnement, ce n'est pas protéger l'environnement à l'échelle d'un État, c'est protéger son environnement immédiat. C'est-à-dire la question de la propriété, c'est la question de santé également. Un petit village en Inde, au Kerala, les femmes font un travail extraordinaire, elles arrivent à rebooter le paludisme de leur environnement. Un des villages les plus pauvres de la planète Terre. Pourtant, plus de paludisme. Parce que plus de déchets, gestion efficace à l'échelle privée de, justement, je prends souvent cet exemple-là parce que c'est un exemple qui m'a séduit. Dans le temps au Mali, nos environnements étaient propres. Le Malien avait souci de son environnement, de ce qu'en dira-t-on. C'est ça qui fait en fait un peu le cœur. On n'a plus ce souci de ce qu'en dira-t-on. Mais quand on n'a plus le souci de ce qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut avoir le souci de la bonne santé, de ne pas mettre tout l'argent qu'on gagne dans la pharmacopée ou dans la pharmacie, dans la santé de ses enfants. Qui assainit son environnement immédiat se prémunit déjà de problèmes de santé. Donc
c'est une question de santé humaine d'abord avant que ce ne soit une question de santé environnementale.
Évidemment, évidemment. Et c'est quand cette conscience qui est poussée, qui est que je ne dois pas jeter ma peau de banane, même si la peau de banane est biodégradable, c'est moins dangereux que, à moins que quelqu'un glisse dessus, c'est moins dangereux par exemple que de jeter un papier. Le papier est biodégradable. Ce qui n'est pas biodégradable, c'est le plastique. Et la grande inondation que nous avons eue, une des grandes conséquences de cette grande inondation, les poissons en ont pâti par fait de pollution, parce que les poissons se sont trouvés dans le même écosystème avec des objets plus lourds que les poissons. Et quand Banguineda se retrouve à pêcher je ne sais pas combien de kilomètres, combien de kilogrammes de poissons pour de cet danger climatique. Donc le paradigme est assez important. Nous, moi je pense qu'on peut utiliser le même paradigme que le monde entier quant au l'écologie, le réchauffement climatique, mais il faudrait que nous arrivions, en tant que société civile, nous arrivions à expliquer aux Maliens lambda. Mais le Malien lambda, c'est là où je n'aime pas le mot Malien lambda, parce que quand on dit Malien lambda, on pense que le Malien lambda ne comprend pas. Tout individu est capable de compréhension de ce qui est bien pour... ça, c'est mon côté pédagogue qui parle, de ce qui est bien.
Est-ce qu'on a déjà demandé aux citoyens lui-même qu'est-ce qu'il propose comme solution? Parce que la plupart des solutions viennent des spécialistes de l'État. Les autorités, mais est-ce qu'on demande très souvent aux citoyens, à la population, qu'est-ce qu'elles proposent comme solution?
Une des solutions que le citoyen, en tant que citoyen, peut proposer, c'est déjà de ne pas laisser une poubelle à ciel ouvert devant sa maison. De ne pas laisser des flaques d'eau se construire devant sa maison. Car en sortant, avec chaque seau d'eau jeté par terre, crée ces flaques d'eau-là, c'est la solution.
Je vous redonne la parole tout de suite avec Moussa Konaté. Oui. Est-ce que vous avez des solutions à proposer, Moussa?
J'avais abordé la question sur la contrainte environnementale. C'est exactement ça. Chacun à son niveau. Peut jouer le rôle. C'est devant chez soi que ça va être propre d'abord. Mais je le dis. Avant que la ménagère n'aille au marché, les bras ballants, et revienne avec 10 sachets plastiques, qu'elle comprenne qu'elle peut aller avec son panier traditionnel et ne revenir qu'avec 15 sachets plastiques. Et avec le temps, elle viendra plus avec des sachets plastiques à la maison. Ça, c'est un cas.
Ce ne serait pas plus simple d'interdire tout court les sachets plastiques au Mali? Est-ce que ce ne serait pas plus simple?
Mais pourquoi elle a accès aux sachets plastiques? Normalement, elle ne doit plus avoir accès aux sachets plastiques parce que c'est interdit.
Qui interdit les plastiques. Mais pourtant, ça circule de part et d'autre et on ne voit pas une réaction de l'État dans ce sens, surtout pour sanctionner.
Justement, c'est pourquoi quand l'hôtel parle d'un grand programme, oui, qu'on crée des structures, qu'il y a des programmes, mais il faut que les structures techniques existantes soient dynamisées, renforcées pour jouer d'abord leur rôle. Si ceci ne joue pas leur rôle, en aucun moment donné, un programme va se taire parce que l'autre acteur n'étant pas capable de jouer son rôle, donc le programme va aller vraiment vers l'échec total. Voici un cas. Les sacrés pratiques sont interdits. Mais hier seulement, il y avait des entretiens là-dessus où la douane dit qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations pour savoir quel est le certificatif biodégradable, lequel n'est pas biodégradable. Les usines existent aussi au Mali, ça continue à produire des sachets plastiques. Donc pourquoi on n'applique pas la loi qui a été votée? Donc voilà, comment continuer ce changement de comportement, cette conscience environnementale, et la facilité de polluer le pays. Ce sont des questions qui doivent être envisagées, comme le gars l'a dit, dans une vision globale, vraiment. Je pense que c'est comme ça qu'on peut résoudre le problème lié au fleuve Niger.
Est-ce qu'il y a un cadre qui réunit tous les acteurs concernés pour que le fleuve puisse être sauvé?
Oui, en fait, il y a... 3 ans au niveau de l'agence, justement pour éviter des actions un peu éparpillées. Donc il y a eu un programme national de sauvegarde du fleuve Niger qui a été adopté par le gouvernement.
Il y a trois ans.
Et donc ça se veut vraiment un cadre fédérateur pour regrouper tous les acteurs, pour avoir une vision commune d'intervention. Pour déjà savoir ce qui se fait, qui intervient sur le fleuve, qu'est-ce qui est en train de se faire, parce qu'il y a tellement d'acteurs. Et aller justement vers des programmes communs pour justement la sauvegarde de ce fleuve.
Maintenant, ce programme,
bien sûr, c'est tout ce qui...
Mais s'il est inclusif, après 3 années, est-ce que la situation s'est améliorée ou est-ce qu'elle s'est détériorée?
Bon, disons qu'effectivement, il y a bien sûr, dans ce cadre, il y a des projets qui sont en cours, qui essayent de regrouper justement les acteurs, mais comprenez que 3 ans pour déjà faire tâche d'huile, c'est encore très insuffisant.
Non, mais déjà, combien de temps
déjà un point important, vous voyez, on a quand même un arrêté qui vient de sortir pour interdire, pour suspendre l'activité de dragage.
Mais qui est tellement a déjà trouvé nocif. Des textes, monsieur.
Non, ça c'est spécifique. Voilà, c'est vraiment spécifique. Et que ces 4 ministères, quand même, qui se sont mis ensemble pour suspendre cette activité. Et aujourd'hui, effectivement, les équipes sont sur le terrain pour enlever toutes ces machines-là du fleuve. Donc, ça, c'est déjà des débuts, quand même.
Mais est-ce que ce n'est pas des activités liées à la quinzaine qui vont s'arrêter à la fin de la quinzaine l'an
prochain? Non, ça, je vous assure, non, ça n'a rien à voir. Ça a commencé avant la quinzaine, ça va aussi continuer. Après la quinzaine. Donc il y a ce genre d'activités, il y a aussi d'autres activités en fait de renforcement même de l'écosystème fluvial. Parce que tous les problèmes justement qui ont été évoqués, il faut des solutions aussi spécifiques. Il faut des solutions pour l'ensablement, pour faire que le fleuve devienne vraiment navigable.
Donc c'est une question transversale.
Donc il y a effectivement des actions.
Quelle est l'urgence aujourd'hui pour sauver le fleuve Niger?
L'urgence, c'est d'établir des zones tampons d'activité économique. On ne peut pas faire du dragage partout. Je ne pense pas qu'à Bamako, on ait besoin de faire du dragage. Koulikoro a besoin, je parle sous le contrôle d'un technicien, je pense que Koulikoro a aujourd'hui besoin d'un dragage urgent. Tout le lit de Koulikoro se trouve aujourd'hui ensablé. Donc qui dit ensablement aussi dit pollution de la nappe phréatique, donc empêchement de l'eau de réjaillir. Donc diriger en fait l'activité économique vers des zones tampons, donc identifier où, cela je le disais il y a un an et je le répète encore une fois et j'espère que ce sera entendu, donc faire des zones tampons économiques. C'est pas partout qu'on peut faire du dragage, c'est pas partout qu'on peut faire de la pisciculture, c'est pas partout qu'on peut aujourd'hui pêcher. Aujourd'hui, on peut même plus pêcher, il y a plus de poissons, les bozos sont devenus des dragueurs. Donc c'est pour dire ô combien c'est compliqué. Quand on va à l'intérieur du Mali et que par exemple, on se retrouve à Mopti, à Ségouya Mopti, déjà Mopti, ça devient une urgence climatique, quoi. Mopti, qui était le berceau du poisson, n'est plus le berceau du poisson. Bon, même si aujourd'hui, il y a d'autres projets qui sont en cours d'ONG.
Surtout quand on voit les filets de pêche aujourd'hui qui ressemblent à des moustiquaires.
Mais bien sûr, qui se retrouvent à être utilisés ou recyclés autrement. Mais heureusement, il y a des projets qui arrivent pour faire des cages flottantes, pour favoriser des activités économiques autour de la pisciculture. Donc, zone tampon.
D'accord. Moussa Konaté, peut-on y arriver, sauver le fleuve Niger?
Oui, à mon avis, on peut le faire. Et quelqu'un a parlé de la communication à la matière. Et toute initiative doit être précédée d'une grande campagne de communication, de sensibilisation. Et je pense, par exemple, que nous, de notre vivant, on n'avait pas vu de cas. Et la pollution qui a amené des milliers de tonnes de poissons morts à Bamako jusqu'à vers Ségou. C'est la première fois que nous voyons. Et nous savons que c'est par exemple une pollution avancée du fleuve qui a fait sortir les poissons de leur lit. Voici le typique qu'on peut prendre pour lancer une campagne de sensibilisation par rapport à la protection du fleuve Niger.
D'accord. Merci, monsieur Moussa Konaté. Le temps est écoulé et je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs qu'on reviendra sur ce débat en langue nationale bamanankan pour qu'une bonne partie des Maliens puissent comprendre les enjeux auxquels le fleuve Niger fait face. Merci à nos invités, docteur Baba Faradji Ndiaye de l'agence du bassin du fleuve Niger ABFN, Jasako du collectif Sauvons le fleuve Niger et Moussa Konaté de Seco ONG à la régie audio et vidéo. Nouhoum Djiré et Gagny Kanté, je suis Hamadou Touré, à demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halou Gmoun.
Chenne Berry.
Sigi Kafoba.